Néanmoins, Jacques Collin ou Carlos Herrera, il est nécessaire de lui donner l'un ou l'autre de ces noms selon les nécessités de la situation, connaissait de longue main les façons de la police, de la geôle et de la justice. Aussi, ce colosse de ruse et de corruption avait-il employé les forces de son esprit et les ressources de sa mimique à bien jouer la surprise, la niaiserie d'un innocent, tout en donnant au magistrat la comédie de son agonie. Comme on l'a vu, Asie, cette savante locuse, lui avait fait prendre un poison mitigé de manière à produire le semblant d'une maladie mortelle. L'action de M. Camusot, celle du commissaire de police, l'interrogeante activité du procureur du roi, avait donc été annulée par l'action, par l'activité d'une apoplexie foudroyante. « Il s'est empoisonné !» s'était écrié M. Camusot, épouvanté par les souffrances du soi-disant prêtre, quand on l'avait descendu de la mansarde en proie à d'horribles convulsions. Quatre agents avaient eu beaucoup de peine à convoyer l'abbé Carlos par les escaliers jusqu'à la chambre d'Esther, où tous les magistrats et les gendarmes étaient réunis. « C'est ce qu'il avait de mieux à faire, s'il est coupable, » avait répondu le procureur du roi. « Le croyez-vous donc malade ?» avait demandé le commissaire de police. La police doute toujours de tout. Ces trois magistrats s'étaient alors parlé, comme on le suppose, à l'oreille, mais Jacques Collin avait deviné sur leur physionomie le sujet de leur confidence et il en avait profité pour rendre impossible, ou tout à fait insignifiant, l'interrogatoire sommaire qui se fait au moment d'une arrestation. Il avait balbutié des phrases où l'espagnol et le français se combinaient de manière à présenter des non-sens. À la force, cette comédie avait obtenu d'abord un succès, d'autant plus complet que le chef de la sûreté, abréviation de ces mots chef de brigade de police de sûreté, Bibi Lupin, qui jadis avait arrêté Jacques Collin dans la pension bourgeoise de Madame Vauquer, était en mission dans les départements et suppléé par un agent désigné comme le successeur de Bibi Lupin et à qui le forçat était inconnu. Bibi Lupin, ancien forçat, compagnon de Jacques Collin au bagne, était son ennemi personnel. Cette inimitié prenait sa source dans des querelles où Jacques Collin avait toujours eu le dessus et dans la suprématie exercée par Trompe-la-Mort sur ses compagnons. Enfin, Jacques Collin avait été pendant 10 ans la providence des forçats libérés, leur chef, leur conseil à Paris, leur dépositaire et, par conséquent, l'antagoniste de Bibi Lupin. Donc, quoique mis au secret, il comptait sur le dévouement intelligent et absolu d'Asie, son bras droit, et peut-être sur Paccard, son bras gauche, qu'il se flattait de retrouver à ses ordres, une fois que le soigneux lieutenant aurait mis à l'abri les 750 000 francs volés. Telle était la raison de l'attention surhumaine avec laquelle il embrassait tout sur sa route. Chose étrange, cet espoir allait être pleinement satisfait. Les deux puissantes murailles de l'arcade Saint-Jean étaient revêtues à 6 pieds de hauteur d'un manteau de boue permanent produit par les éclaboussures du ruisseau. Car les passants n'avaient alors, pour se garantir du passage incessant des voitures et de ce qu'on appelait les coups de pied de charrette, que des bornes, depuis longtemps éventrées par les moyeux des roues. Plus d'une fois, la charrette d'un carrier avait broyé ça et là des gens inattentifs. Tel fut Paris pendant longtemps et dans beaucoup de quartiers. Ce détail peut faire comprendre l'étroitesse de l'arcade Saint-Jean et combien il était facile de l'encombrer. Qu'un fiacre vint à y entrer par la place de Grève, pendant qu'une marchande dite des quatre saisons y poussait sa petite voiture à bras pleine de pommes par la rue du Martroi, la troisième voiture qui survenait occasionnait alors un embarras. Les passants se sauvaient, effrayés, en cherchant une borne qui pût les préserver de l'atteinte des anciens moyeux, dont la longueur était si démesurée qu'il a fallu des lois pour les rogner. Quand le panier à salade arriva, l'arcade était barrée par une de ces marchandes des quatre saisons, dont le type est d'autant plus curieux qu'il en existe encore des exemplaires dans Paris, malgré le nombre croissant des boutiques de fruitières. C'était si bien la marchande des rues qu'un sergent de ville, si l'institution en avait été créée alors, l'eût laissé circuler sans lui faire exhiber son permis, malgré sa physionomie sinistre qui suait le crime. la tête, couverte d'un méchant mouchoir de coton à carreaux en loque, était hérissée de mèches rebelles qui montraient des cheveux semblables à des poils de sanglier. Le cou rouge et ridé faisait horreur, et le fichu ne déguisait pas entièrement une peau tannée par le soleil, par la poussière et par la boue. La robe était comme une tapisserie. Les souliers grimaçaient à faire croire qu'il se moquait de la figure aussi trouée que la robe. Et quelle pièce d'estomac! Un emplâtre eût été moins sale. À 10 pas, cette guenille ambulante et fétide devait affecter l'odorat des gens délicats. Les mains avaient fait 100 moissons. Ou cette femme revenait d'un sabbat allemand, ou elle sortait d'un dépôt de mendicité. Mais quel regard! Quelle audacieuse intelligence! Quelle vie contenue quand les rayons magnétiques de ses yeux et ceux de Jacques Collin se rejoignirent pour échanger une idée. « Range-toi donc, vieil hospice à vermine !» cria le postillon d'une voix rauque.
« Ne vas-tu pas m'écraser, hussard de la guillotine ? » répondit-elle. « Ta marchandise ne vaut pas la mienne !»
Et en essayant de se serrer entre deux bornes pour livrer passage, la marchande embarrassa la voix pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de son projet. « Oh, Asie ! » se dit Jacques Collin, qui reconnut sur le champ sa complice. « Tout va bien !» Le postillon échangeait toujours des aménités avec Asie et les voitures s'accumulaient dans la rue du Martroi.
« Ae, pecaire, fermati, sunila, vedrem !»
s'écria la vieille Asie avec ses intonations illinoises particulières aux marchandes des rues qui dénaturent si bien leurs paroles qu'elles deviennent des onomatopées compréhensibles seulement pour les Parisiens. Dans le brouhaha de la rue et au milieu des cris de tous les cochers survenus, personne ne pouvait faire attention à ce cri sauvage qui semblait être celui de la marchande. Mais cette clameur, distincte pour Jacques Collin, lui jetait à l'oreille, dans un patois de convention mêlé d'italien et de provençal corrompu, cette phrase terrible.
« Ton pauvre petit est pris, mais je suis là pour veiller sur vous. Tu vas me revoir. »
Au milieu de la joie infinie que lui causait son triomphe sur la justice, car il espérait pouvoir entretenir des communications au dehors, Jacques Collin fut atteint par une réaction qui eût tué tout autre que lui. « Lucien, arrêtez !» se dit-il. Et il faillit s'évanouir. Cette nouvelle était plus affreuse pour lui que le rejet de son pourvoi s'il eût été condamné à mort. Maintenant que les deux paniers à salade roulent sur les quais, l'intérêt de cette histoire exige quelques mots sur la conciergerie pendant le temps qu'ils mettront à y venir. La conciergerie, nom historique, mot terrible, chose plus terrible encore, est mêlée aux révolutions de la France et à celles de Paris surtout. Elle a vu la plupart des grands criminels. Si de tous les monuments de Paris c'est le plus intéressant, c'en est aussi le moins connu des gens qui appartiennent aux classes supérieures de la société. Mais malgré l'immense intérêt de cette digression historique, elle sera tout aussi rapide que la course des paniers à salade. Quel est le Parisien, l'étranger ou le provincial, pour peu qu'il soit resté 2 jours à Paris, qui n'ait remarqué les murailles noires flanquées de 3 grosses tours à poivrières, dont 2 sont presque accouplées, ornement sombre et mystérieux du quai dit des Lunettes. Ce quai commence au bas du pont au Change et s'étend jusqu'au pont Neuf. Une tour carrée, dite la tour de l'horloge, où fut donné le signal de la Saint-Barthélemy, tour presque aussi élevée que celle de Saint-Jacques-la-Boucherie, indique le palais et forme le coin de ce quai. Ces 4 tours, ces murailles, sont revêtues de ce suaire noirâtre que prennent à Paris toutes les façades à l'exposition du Nord. Vers le milieu du quai, à une arcade déserte, commencent les constructions privées que l'établissement du pont Neuf détermina sous le règne de Henri IV. La place royale fut la réplique de la place Dauphine. C'est le même système d'architecture, de la brique encadrée par des chaînes en pierre de taille. Cette arcade et la rue de Harlay indiquent les limites du palais à l'ouest. Autrefois, la préfecture de police, hôtel des premiers présidents au Parlement, dépendait du palais. La Cour des comptes et la Cour des aides y complétaient la justice suprême, celle du souverain. On voit qu'avant la Révolution, le palais jouissait de cet isolement qu'on cherche à créer aujourd'hui. Ce carré, cette île de maisons et de monuments où se trouve la Sainte-Chapelle, le plus magnifique joyau de l'écrin de Saint-Louis, cet espace est le sanctuaire de Paris. C'en est la place sacrée, l'Arche Sainte. Et d'abord, cet espace fut la première cité tout entière, car l'emplacement de la place Dauphine était une prairie dépendante du domaine royal, où se trouvait un moulin à frapper les monnaies. De là, le nom de rue de la Monnaie, donné à celle qui mène au Pont-Neuf. De là aussi le nom d'une des trois tours rondes, la seconde, qui s'appelle la Tour d'Argent, et qui semblerait prouver qu'on y a primitivement battu monnaie. Le fameux moulin, qui se voit dans les anciens plans de Paris, serait vraisemblablement postérieur au temps où l'on frappait la monnaie dans le palais même, et dû sans doute à un perfectionnement dans l'art monétaire. La première tour, presque accolée à la tour d'argent, se nomme la tour de Montgomery. La troisième, la plus petite, mais la mieux conservée des trois, car elle a gardé ses créneaux, a nom la tour Bombec. La Sainte-Chapelle et ses quatre tours, en comprenant la tour de l'horloge, déterminent parfaitement l'enceinte, le périmètre, dirait un employé du cadastre, du palais, depuis les Mérovingiens, jusqu'à la première maison de Valois. Mais pour nous, et par suite de ces transformations, ce palais représente plus spécialement l'époque de Saint-Louis. Charles V, le premier, abandonna le palais au Parlement, institution nouvellement créée, et alla, sous la protection de la Bastille, habiter le fameux hôtel Saint-Paul, auquel on adossa plus tard le palais des Tournelles. Puis, sous les derniers Valois, la royauté revint de la Bastille au Louvre, qui avait été sa première Bastille. La première demeure des rois de France, le palais de Saint-Louis, qui a gardé ce nom de palais tout court pour signifier le palais par excellence, est tout entier enfoui sous le palais de justice. Il en forme les caves, car il était bâti dans la Seine, comme la cathédrale, et bâti si soigneusement que les plus hautes eaux de la rivière en couvrent à peine les premières marches. Le quai de l'horloge enterre d'environ 20 pieds ses constructions 10 fois séculaires. Les voitures roulent à la hauteur du chapiteau des fortes colonnes de ces trois tours, dont jadis l'élévation devait être en harmonie avec l'élégance du palais et d'un effet pittoresque sur l'eau, puisqu'aujourd'hui ces tours le disputent encore en hauteur aux monuments les plus élevés de Paris. Quand on contemple cette vaste capitale du haut de la lanterne du Panthéon, le palais, avec la Sainte-Chapelle, est encore ce qui paraît le plus monumental parmi tant de monuments. Ce palais de nos rois, sur lequel vous marchez quand vous arpentez l'immense salle des Pas-Perdus, était une merveille d'architecture. Il l'est encore aux yeux intelligents du poète qui vient l'étudier en examinant la conciergerie. Hélas, la conciergerie a envahi le palais des rois. Le cœur saigne à voir comment on a taillé des geôles, des réduits, des corridors, des logements, des salles sans jour ni hier dans cette magnifique composition où le byzantin, le roman, le gothique, ces trois faces de l'art ancien, ont été raccordées par l'architecture du XIIe siècle. Ce palais est à l'histoire monumentale de la France des premiers temps, ce que le château de Blois est à l'histoire monumentale des seconds temps. De même qu'à Blois, dans une cour où vous pouvez admirer le château des comtes de Blois, celui de Louis XII, celui de François Ier, celui de Gaston, de même, à la conciergerie, vous retrouvez dans la même enceinte le caractère des premières races et dans la Sainte-Chapelle, l'architecture de Saint-Louis. Conseil municipal, si vous donnez des millions, mettez aux côtés des architectes un ou deux poètes et si vous voulez sauver le berceau de Paris, le berceau des rois, en vous occupant de doter Paris et la cour souveraine d'un palais digne de la France. C'est une question à étudier pendant quelques années avant de rien commencer. Encore une ou deux prisons de bâti, comme celle de la Roquette, et le palais de Saint-Louis sera sauvé. Aujourd'hui, bien des plaies affectent ce gigantesque monument, enfoui sous le palais et sous le quai, comme un de ces animaux antédiluviens dans les plâtres de Montmartre. Mais la plus grande, c'est d'être la conciergerie. Ce mot, on le comprend. Dans les premiers temps de la monarchie, les grands coupables, car les vilains, il faut tenir à cette orthographe de deux L qui laisse au mot sa signification de paysan. Et les bourgeois appartenant à des juridictions urbaines ou seigneuriales, les possesseurs des grands ou petits fiefs étaient amenés au roi et gardés à la conciergerie. Comme on saisissait peu de ces grands coupables, la conciergerie suffisait à la justice du roi. Il est difficile de savoir précisément l'emplacement de la primitive conciergerie. Néanmoins, comme les cuisines de Saint-Louis existent encore et forment aujourd'hui ce qu'on nomme la souricière, il est à présumer que la conciergerie primitive devait être située là où se trouvait, avant 1825, la conciergerie judiciaire du Parlement, sous l'arcade à droite du grand escalier extérieur qui mène à la cour royale. De là, jusqu'en 1825, partirent les condamnés pour aller subir leur supplice. De là sortirent tous les grands criminels, toutes les victimes de la politique, la maréchale d'Ancre comme la reine de France, Semblancé comme Malesherbes, Damiens comme Danton, Desrues comme Castaing. Le cabinet de Fouquier-Tinville, le même que celui actuel du procureur du roi, se trouvait placé de manière à ce qu'il pût voir défiler dans leur charrette les gens que le tribunal révolutionnaire venait de condamner. Cet homme, fait glaive, pouvait ainsi donner un dernier coup d'œil à ses fournées. Depuis 1825, sous le ministère de M. de Peyronnet, un grand changement eut lieu dans le palais. Le vieux guichet de la conciergerie, où se passaient les cérémonies de l'écrou et de la toilette, fut fermé et transporté où il se trouve aujourd'hui, entre la tour de l'horloge et la tour Montgomery, dans une cour intérieure indiquée par une arcade. À gauche se trouve la souricière, à droite le guichet. Les paniers à salade entrent dans cette cour assez irrégulière et peuvent y rester, y tourner avec facilité, s'y trouver, en cas d'émeute, protégé contre une tentative par la forte grille de l'arcade. Tandis qu'autrefois, il n'avait pas la moindre facilité pour manœuvrer dans l'étroit espace qui sépare le grand escalier extérieur de l'aile droite du palais. Aujourd'hui, la conciergerie, à peine suffisante pour les accusés, il y faudrait de la place pour 300 personnes, hommes et femmes, ne reçoit plus ni prévenus ni détenus, excepté dans de rares occasions, comme celle qui y faisait amener Jacques Collin et Lucien. Tous ceux qui y sont prisonniers doivent comparaître en cour d'assises. Par exception, la magistrature y souffre les coupables de la haute société qui, déjà suffisamment déshonorés par un arrêt de cour d'assises, seraient punis au-delà des bornes s'ils subissaient leur peine à Melun ou à Poissy. Ouvrard préféra le séjour de la conciergerie à celui de Sainte-Pélagie. En ce moment, le notaire Lehon, le prince de Berg y font leur temps de détention par une tolérance arbitraire, mais pleine d'humanité.